L'actu sur un plateau.
La feuille de chou de Radio Larzac qui se cultive tous les 15 jours. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans l'actu sur un plateau. On est en direct aujourd'hui avec Nicolas à mes côtés. Bonjour Nicolas.
Salut Amélie.
Et Nico à la technique, et pas qu'à la technique aujourd'hui.
C'est vrai, peut-être ils vont me laisser parler.
Si t'es sage.
Pour cette nouvelle année.
Au sommaire aujourd'hui, nous recevrons Olivier Coursier, président de l'association Polisson de Saint-Afrique, à l'occasion du ciné-concert organisé demain par l'association. Nous poursuivrons avec une revue de presse sur les procès des différents bénévoles ou militants accusés d'aider les réfugiés et donc de ce que l'on appelle le délit de solidarité. Et enfin, Nico nous présentera sa sélection des nouveautés musicales. Mais avant cela, nous recevons René Picard. Bonjour René.
Bonjour.
L'invité de l'actu social. Voilà, et ce premier invité que reçoit Amélie, c'est donc René Picard de l'association À tout cœur. Pour la sortie, c'était fin 2016, du livre « Des bruits dans les buis », un livre auquel vous avez fortement contribué.
Oui, disons que c'est un projet qui me tenait à cœur depuis 2 ou 3 ans, parallèlement à l'édition, la collection Miavoise, qui sont 7 recueils de témoignages de la vie de l'après-guerre jusqu'aux années 60. J'avais cette idée de toucher un lectorat plus jeune, autre, par des contes, des nouvelles et des poèmes. Et donc l'idée est venue il y a 2 ou 3 ans, et le livre a été présenté début décembre. C'est peut-être le premier d'une série. C'est tout à fait possible qu'il y en ait d'autres.
Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous pencher plus particulièrement sur la fiction cette fois?
Alors, l'idée de toucher un lectorat plus large, plus jeune, de ne pas rester forcément sur les témoignages de l'ancien temps, avec une connotation historique plus marquée, a fait que l'idée, c'était justement de passer à la fiction, de passer à la création, et ça a donné ce petit opus. Donc.
Est-ce que vous êtes inspiré de contes ou de légendes déjà préexistantes?
Non, justement, l'idée c'était de faire autre chose. Donc je vais dire simplement un petit mot avant, c'est qu'il y avait 2 options, écrire seul ou pour continuer à avoir un certain lien social, comme on a eu avec les témoignages, d'essayer de créer une petite équipe. Donc en parlant par la presse, par notre site internet, 12 personnes m'ont rejoint et je les remercie vivement parce que c'est grâce à elles et eux que le projet a pu voir le jour.
Alors quelle est-elle cette équipe? Est-ce qu'elle est constituée de bénévoles d'À tout cœur ou de Miavoix?
Alors il y a les deux. Il y a des personnes qui font partie donc d'À tout cœur et puis d'autres qui ont répondu surtout à partir de notre site parce qu'ils écrivaient eux-mêmes. Parce qu'ils avaient envie de participer. Et il est vrai que, contrairement à ce que j'attendais, pensant que les nouvelles viendraient en grand nombre, ça a été des centaines de poèmes qui ont commencé par m'être envoyés.
Des centaines?
Des centaines. Et après, il a fallu choisir. Et puis, un petit groupe a émergé d'une 12 personnes, dont la plupart n'avaient jamais écrit, et qui se sont lancés, qui ont bien voulu se lancer dans la nouvelle. Donc ce qui fait qu'on a eu très peu de contes nouveaux, mais des nouvelles, et puis donc des poèmes pour lesquels on avait l'embarras du choix.
Alors vous avez fait office de chef éditeur dans l'édition,
oui.
Du coup. Est-ce qu'elle a été la ligne directrice? Quel était l'angle que vous avez donné à vos écrivains?
Alors, la première chose, c'était, pour ne pas rompre avec la collection miavoise, de garder un ancrage miavois pour les contes et les nouvelles. Les poèmes restant très libres, les contes et les nouvelles gardant un ancrage dans le miavois, tout au moins pour ce premier tome. Après, c'était la liberté totale, bien sûr. Liberté de création, fiction, nouvelles, certaines sont entre le conte et la nouvelle, on ne sait pas trop, policières.
Il y a de la science-fiction aussi.
Oui. De la science-fiction, et puis un peu d'humour aussi. Donc la liberté totale.
Alors, comme vous le disiez, ce qui marque vraiment dans toutes ces histoires, c'est l'attachement au lieu qui nous entoure. On trouve une explication fantastique sur la formation des causses et des amas rocheux. On trouve un poème à la gloire du Lévézou, de la science-fiction sur le viaduc, enfin tout un tas de choses sur les lieux qui nous entourent. Pourquoi vous avez eu cette envie de garder un ancrage local et de parler de la région ?
Donc, comme je vous ai dit, c'était pour garder un trait d'union entre la collection Millavoise, qui s'adressait uniquement aux Millavois, élargi mais quand même aux Millavois, et ne pas rompre directement en proposant au futur lectorat des textes qui auraient quand même des racines millavoises. Ce qui ne veut pas dire que ce sera conservé pour les autres textes des autres recueils, s'il y en a d'autres. Peut-être qu'on élargira. Mais pour ce premier, il y avait le souci quand même de garder cette continuité. On reste dans le millavois en se dispersant un peu sur l'Écosse quand même, mais garder quand même cette idée de terroir.
En guise de transition, donc.
Voilà. Peut-être définitivement... On ne verra plus de récits sur le Millavois, mais j'en doute quand même, parce qu'il y a déjà des nouvelles qui sont prêtes et qui restent quand même accrochées aux causses.
Quel a été le rôle de l'association d'À tout cœur dans cette publication ? Comment elle vous a accompagné dans la publication ?
Alors, comme depuis 7 ans avec la collection des témoignages Millavois, le travail se fait à l'association, la mise en page, la maquette se fait aussi à tout cœur, et donc... On ne propose à l'imprimeur qu'une maquette définitive, c'est-à-dire que si des erreurs sont commises, elles sont notre faute. Voilà.
Alors, vous avez fait don des droits d'auteur à l'association et des bénéfices de vente aussi. À quoi va servir cet argent ? Est-ce qu'on peut rappeler un peu les missions d'À tout cœur ?
Comme depuis 7 ans avec les autres livres... Les droits d'auteur servent à financer principalement des classes de neige, des classes découvertes pour des enfants qui sont en difficulté financière. Donc, il ne faut pas non plus se leurrer en pensant que les bénéfices sont énormes, parce que quand on revend les livres nous-mêmes, bien sûr, on a une marge qui est maximale. Après, les librairies se chargent de la diffusion et c'est très bien. Par contre, évidemment, le libraire, il a lui aussi... sa part, ce qui est normal aussi, mais globalement, ça fait quand même voilà, une aide qui vient s'ajouter aux aides qu'on peut nous donner à tout cœur et qui n'est pas négligeable.
Mais l'association mène bien d'autres actions au-delà de l'édition de livres.
Ah oui, tout à fait. Voilà. Oui, oui.
On peut peut-être en parler pour le rappeler aux auditeurs.
Voilà,
en tout cas.
L'association, le livre est venu se greffer à ce qu'on faisait. Ce n'est qu'une petite partie. Donc la vente de meubles, des meubles de récupération, de meubles relookés, de vêtements, de livres, c'est le principal revenu de l'association, si je puis dire. Et le livre ne vient que s'ajouter. Financièrement, il est évident que le livre n'a pas la plus grosse part dans notre budget.
Est-ce que vous avez déjà un retour sur les 7 précédentes éditions ? Donc, des Millavois parlent aux Millavois, un retour sur les bénéfices, sur ce qui a été permis grâce à ces bénéfices ?
Oui, disons que sur 7 ans, je n'ai pas les chiffres exacts en tête, mais il doit y avoir à peu près 5 à 6 000 exemplaires vendus. Donc, ça fait quelques dizaines de milliers d'euros sur 6 ou 7 ans qui ont permis d'aider des financements de classes découvertes, de classes de neige. Mais c'est vrai, ce que vous disiez, c'est en plus de ce qu'on fait. Ce n'est pas la plus grosse part, mais ça a permis aussi de faire connaître un peu mieux l'association et puis de créer du lien social, notamment avec les témoignages. C'est 7 ouvrages sur les témoignages où on a rencontré beaucoup de personnes et ça a permis d'ouvrir l'association. Donc c'est un côté qui n'est pas forcément lucratif, mais au niveau social qui nous a engagés et en même temps qui nous a vraiment séduits.
Alors, en exergue de pratiquement chaque texte, vous mettez une citation d'un auteur connu. Est-ce que ça, c'est le choix de chacun des auteurs ou est-ce que c'est au moment de l'édition que vous avez fait ce choix éditorial, en quelque sorte ?
Alors, moi, j'ai proposé une citation. On l'a déjà fait par le passé dans les autres livres. Après, ce n'est pas forcément systématique. Je crois que pour le prochain, il n'y aura pas de citation. Ces citations, voilà, c'était... C'était une façon de présenter le texte, mais on l'a fait pour d'autres livres, d'autres on l'a pas fait. Non, c'est un choix. Après, le choix a été adopté, donc la citation est venue trouver sa place sauf pour la coquille que vous avez dû remarquer pour la première. Je pense que vous l'avez vue ou vous vouliez qu'on en parle, non ?
Non.
Parce que j'avais trouvé cette citation de Jules Laforgue, « Je ne suis qu'un rêveur lunaire qui fait des rondes dans les bassins ». Et c'est devenu, alors qu'on était deux pour taper ceci, « Un rêve lunaire qui fait des rondes dans les buissons ». Donc c'est évident que c'est...
Ça mais c'était involontaire.
Absolument, oui.
Pour autant, ça correspond très bien au titre, du coup, des bruits dans les buis.
Mais c'est en parlant de buis que le mot buisson a supplanté le mot bassin. Voilà.
Ça valait le coup de réécrire Jules Laforgue. Donc.
Tout à fait. Et peut-être est-ce qu'il l'a dit un jour, on ne sait pas.
Alors, le deuxième tome est en préparation.
Oui.
Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ?
Alors... Je sais qu'une ou deux personnes ont déjà commencé. Il y a déjà une nouvelle pour une des personnes qui est déjà bien avancée. Moi, j'en ai 6 ou 7 qui sont prêtes. Et on aura une réunion fin janvier. Mais dans l'ensemble, l'équipe est prête. La dernière fois qu'on s'est vu, l'équipe est prête pour repartir pour un deuxième tome. Peut-être, ce n'est pas encore décidé, mais moi, j'ai proposé qu'il n'y ait que des nouvelles. Il est possible que, ou des contes et des nouvelles, mais on s'est aperçu que la nouvelle faisait plus l'unanimité parmi les personnes de l'équipe que les poèmes et surtout le conte.
C'est une histoire de format ou de...
Le conte, on se réfère souvent aux contes anciens, oui. Aux contes qu'on réécrit. Et moi, j'aimerais qu'on arrive à trouver quelques contes, mais des contes créés, absolument. Alors, la limite est assez ténue entre le conte et la nouvelle. Certaines, c'est, ou même le conte et le poème. On peut écrire un conte en vers. Ce qui fait que ce sont surtout des nouvelles qui ont été écrites. Alors, pour le second, peut-être qu'il y aura des contes, c'est possible. Une des personnes a parlé d'essayer de s'atteler à écrire un conte. Donc,
ce que vous voulez, en fait, c'est aller vers plus dans le sens de la création littéraire plutôt que de reprendre des choses du patrimoine ou de la mémoire collective.
Tout à fait. C'est, dès le départ, la première réunion qu'on a pu faire, donc cette douzaine de personnes, moi, j'ai donné mon avis et après, chacun a apporté. C'était de ne faire que de la création, ne pas reprendre de contes anciens. Ça a déjà été fait beaucoup de fois et très bien. Et de créer quelque chose, même sous un format et un volume très limité au début, comme cet opus, mais de créer vraiment, poème, conte. Et je crois que bon, cette veine va être conservée pour le deuxième tome qui verra le jour, c'est presque sûr.
Alors, est-ce qu'on peut avoir un aperçu peut-être de cette création littéraire ? Avec un extrait que vous nous avez choisi en guise de bande-annonce, qui fait partie, je crois, de la nouvelle « Il faisait froid cet hiver-là ». Voilà, une nouvelle que vous avez écrite.
Oui, alors, comme j'ai changé déjà 18 fois d'avis depuis que vous me l'avez proposé, je vais rechanger encore une fois.
Très bien.
En ajoutant une petite chose, c'est tout à l'heure, j'ai dit que je remerciais très, très vivement et sincèrement le groupe de personnes qui m'a rejoint, qui m'a fait confiance, aussi bien pour illustrer que pour écrire. Et je voulais dire seulement, je peux, on a 4 générations dans ce groupe, c'est-à-dire que le plus âgé a 86 ans, le plus jeune 17, et je voudrais lui faire un petit clin d'œil parce que quand il a commencé cette nouvelle, l'an dernier, il avait donc 17 ans, il est arrivé au bout, il l'a écrite, et moi j'ai tenu à ce qu'elle termine le livre. Donc si vous voulez bien, je terminerai par la fin de sa nouvelle qui parle justement du pays, puisqu'il s'agit de la grotte des faux-monnayeurs sur le Cosnoir. Plus récemment, des travaux ont permis de dégager l'entrée principale de la grotte. Mené par un spéléologue réputé, le réaménagement du tunnel fut un succès. Quant à la sortie de secours utilisée par les 4 bandits pour s'échapper, un éboulement a définitivement scellé son sort il y a quelques années. De nos jours, la grotte est toujours bien cachée. Pour preuve, les milliers de coureurs participant à la célèbre course des Templiers passent chaque année à quelques mètres d'elle, sans même la remarquer. Cette nouvelle est de Robin, 17 ans, quand il a commencé de l'écrire.
Merci. Ben, merci beaucoup René Picard d'être venu nous parler des bruits dans les buis.
Merci à vous de m'avoir reçu. J'en profite pour vous souhaiter une bonne année et une bonne année à Radio Larzac. Voilà.
Merci.
On poursuit avec une pause musicale choisie par Nico.
Oui, alors j'avais pas bien compris la consigne. Moi, je croyais que... Du coup, on va explorer un seul album de là, l'artiste...
Il n'y a pas de souci.
Franck Dadur et The Fakir Orchestra. Je vais pas tout vous dire maintenant, je vais en garder pour les pauses. Franck Dadur, on a pu le voir sous le nom de Fakir à une édition de Miyuan Jazz. C'était une after proposée par l'Assosoy. Et c'était dans un chapiteau qui était sur la maladrerie à l'époque. Et on va écouter un morceau issu de son nouvel album qui vient de sortir. L'album s'appelle Tako Mitsu. Et le morceau que j'ai choisi pour commencer, c'est Les fantômes du chantier naval.
L'invité de l'actu culturel.
L'actu culturel. Et on reçoit maintenant Olivier Coursier de l'association Polisson. Mais avant cela, un petit rappel sur l'interview précédente. C'est un appel à contribution de René Picard qui invite qui veut, qui l'entend, des jeunes, des moins jeunes, à participer au deuxième tome de la rédaction des Bruits dans les Buis. On reçoit donc maintenant Olivier Coursier de l'association Polisson.
Bonjour
Olivier. Qui organise un ciné-concert demain au Petit Carré d'Art à Saint-Afrique à 20h45.
Tout à fait, ouais.
Ouais. Un concert qui sera quand même précédé d'un apéro tapas avec les musiciens du Pocket Philharmonique, c'est ça Olivier ?
Ouais, c'est ça. En fait, c'est un peu l'ouverture de la saison 2017 pour Polisson, du coup on a un peu à marquer le coup. Donc effectivement, il y aura effectivement le ciné-concert avec le groupe sur les coups de 20h45. Mais en fait, on va accueillir le public à partir de 19h30 pour offrir un apéro tapas. Ce sera à prix libre, pas tout à fait offert, mais et du coup, il y a les musiciens qui vont jouer pendant trois quarts d'heure en fait pendant tout ce moment-là. Ensuite, on fera une petite pause avant d'enchaîner avec le ciné-concert, le film et la musique en live.
D'accord. Et donc, pendant l'apéro, on imagine qu'ils vont jouer des choses différentes de celles du ciné-concert.
Oui, je pense, oui. Ouais. Ils ont un répertoire assez étoffé, ça va.
D'accord. Il y aura des possibilités d'échanger avec le public aussi ou...
Pour les musiciens?
Oui.
Oh bah oui, carrément. Bah, disons que eux, de toute façon, ils seront assez dispo, je pense, après le ciné-concert, parce que c'est vrai qu'entre le moment où on va ouvrir les portes, où ils vont jouer de la musique, on va servir, gérer la billetterie et le ciné-concert, on a un changement, un mini changement de plateau, c'est-à-dire que tous les instruments, faut qu'ils repartent sur la scène du Petit Carré d'Art. C'est sur deux espaces différents quand même, du coup, faut qu'on fasse ça, donc. Je pense qu'avant avant le ciné-concert, ça va être chaud, mais après le ciné-concert, je pense que oui, il y aura carrément le temps d'échanger avec.
D'accord. Donc, le choix, il s'est fait autour de films d'animation qui datent des années 30. Il s'agit des aventures de Flip the Frog, donc la grenouille Flip, qui sont dues à Ubi Werks, donc qui était un animateur, enfin... un réalisateur de films d'animation, plus exactement, qui avait été associé à Walt Disney.
C'est ça.
Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de ces... c'est des courts-métrages, en fait.
C'est des courts, hein. Ça dure, je crois que ça dure une dizaine de minutes maximum chaque épisode. Du coup, là, c'est le ciné-concert, c'est un enchaînement d'épisodes. Et c'est un peu dans la veine des cartoons, des premiers cartoons... avec beaucoup d'énergie, ça court un peu dans tous les sens, c'est tout un peu de temps basé sur des courses poursuites, avec effectivement ce personnage de Flip the Frog qui était créé, je crois même avant Mickey en fait. Et donc on touche un peu au tout premier film d'animation, je pense, c'est le début de tout ce cinéma-là. Et du coup, ça nous plaisait bien en fait. C'est un univers qu'on aime bien dans l'association. Et du coup, dans cette idée de faire des ciné-concerts de temps en temps, au moins chaque année, c'était quelque chose qui nous a bien accroché dès le départ. Et avec la musique que produisent Kana et le Pocket Philharmonique, je pense que ça va être super sur scène.
Alors, cette forme d'animation, c'est quelque chose qui sont des dessins. Bon, je ne sais pas si les auditeurs les ont en mémoire, ce type de dessin animé, mais c'est toujours des choses qui sont très rythmées, sur un rythme rapide, hein, en fait. Et est-ce que, alors, parce que c'est aussi un petit peu votre veine, votre courant à Polisson, est-ce que on voit le lien avec le cirque, par exemple, dans ce type de film d'animation?
Je saurais pas dire. Non, je t'avoue, c'est pas ça qui a orienté notre choix du tout, mais bon, après peut-être que les gens qui aiment le cirque aiment aussi les cartoons des années 30, mais non, c'est pas un choix lié à l'envie de faire du cirque.
Parce que, en tout cas, le cinéma à l'époque, c'était aussi quelque chose de forain. C'est-à-dire que bon, les salles elles sont apparues petit à petit, mais au départ, c'était des chapiteaux, notamment aux États-Unis, qui se déplaçaient à travers tout le pays où on projetait les films.
Il n'y avait pas de salle à l'époque.
Quoi. Voilà. Ouais. Donc là aussi, il y a un lien direct avec l'univers circassien, en tout cas.
Ouais, c'est pas fou.
Oui, Amélie ?
L'idée du groupe Tana and the Pocket Philharmonic, c'est de faire voir ces dessins animés sous un œil nouveau, sous un autre jour. Est-ce que vous savez comment ils s'y prennent pour réinventer la BO, en fait?
Faut imaginer que les musiques qu'il y avait sur ces cartoons à l'époque, c'était déjà des musiques assez rythmées, assez jazzy, qui suivaient un peu la dynamique du cartoon, donc quelque chose de très...
Même des fois, c'était l'inverse, c'est-à-dire que la musique était faite avant que l'animation soit réalisée, en fait.
Ouais, c'est fort possible, ouais. Et là, du coup, ils ont leurs compétences musicales et ils les utilisent pour reprendre un petit peu toutes ces bandes originales, pour créer leur musique dessus. C'est quelque chose qui, en fait, la musique, là, ça devient, vu qu'elle est vraiment adaptée, en fait, au dessin animé, ça devient vraiment une ponctuation, en fait. Et du coup, ça qui est assez chouette, parce qu'ils sont quand même assez nombreux sur scène, il y a pas mal d'instruments. Du coup, chaque séquence des films est vraiment bien ponctuée par la musique. Et après, il y a un accompagnement qui est bien bien fait sur tout ça. Enfin, je pense qu'ils ont fait un beau boulot, en tout cas, pour refaire un peu cette bande originale de Pip the Frog à leur sauce, en fait.
Alors, oui, pardon. C'est essentiellement un travail de composition, du coup. Il n'y a pas de chant à l'improvisation.
Ah oui, non. Là, c'est ils suivent une partition, on va dire.
Et alors, donc, il y a eu 38 épisodes, donc on le disait, des aventures de Flip the Frog. Il y a eu un choix, sans doute, qui a été fait parmi ces 38 épisodes.
Alors là, de mémoire, je crois qu'il y en a, 5 ou 6 seulement qui seront présentés ce soir.
Et alors, ce choix, est-ce que ça suit une narration ou est-ce que... comment... Enfin, je ne sais pas, c'est peut-être difficile de répondre à la place des
musiciens. Ouais, c'est pas évident de répondre à cette question-là, ouais.
Ouais.
Non, je pense qu'ils ont fait ces choix en fonction des épisodes qui leur plaisaient. Je pense que le choix s'est aussi porté sur des épisodes qui permettaient à leur musique de bien s'exprimer, en fait. Il faut que le dessin animé puisse suivre aussi la musique, même si c'est l'inverse qui se présente en vrai. C'est la musique qui vient bien après, là, pour le coup, le cartoon.
Donc ce ciné-concert, il vient en ouverture de saison pour l'association Polisson. Est-ce qu'on peut déjà annoncer des choses pour la suite? Qu'est-ce qui va se passer dans le courant de l'année 2017?
On est à peu près, on est un peu en retard sur la com, mais on a quand même à peu près bouclé la saison, toute l'année là. À part la fin d'année, sur laquelle en général on se réserve un peu et on décide de ça un peu plus tard dans la saison. Mais sinon, en fait, on commence l'année avec Clip de Frog et on continue en février, en fait, où il y aura deux événements, dont le premier, c'est des cabarets cirques. Du coup, la 11e édition des Barrés du Carré au Petit Carré d'Art, sur deux jours, les vendredis 17, samedi 18. Ensuite, on accueille une résidence de cirque sur le village de Broquies, dans la salle des fêtes, avec une représentation en fin de semaine le 24 février. Donc là, c'est du cirque. Le mois de février, ce sera cirque. Ensuite, sur le mois de mars, on a un concert au caveau le 18, un concert en partenariat avec Million Jazz le 25. Et ensuite, on a un mois d'avril pour préparer, en fait, l'implantation chapiteau qu'on fait maintenant depuis 3 ans. Ce sera la 4e édition, là. C'est quoi ce cirque?
Donc ça, c'est le gros événement de la saison.
Ouais, maintenant, c'est le gros événement de la saison. Il durera 6 semaines cette année. On implante le chapiteau le 8 mai, on le démonte le 17 juin. Voilà, donc il y a effectivement un truc...
C'est toujours dans les jardins de l'évêché à Vabre ou...
Ouais, on reste sur Vabre, on est super content d'être accueillis là-bas. C'est un beau lieu, c'est agréable d'y travailler. Et puis pour une implantation longue quand même, comme celle-là, c'est important d'être dans un cadre qui convient bien, on va dire. Et puis avec la mairie, ça se passe super bien pour tout cet accueil, pour ce qu'on organise. Donc c'est très chouette, on continue l'expérience. Ouais. Voilà, et puis le 11e festival de blues à la fin du mois de juillet.
À Saint-Isère, donc.
Voilà.
Ouais. D'accord, très bien.
Voilà où on en est pour le moment.
Bon, mais ça fait une belle saison, en tout cas.
Oui, c'est bien.
C'est bien parti. Et donc, ça démarre donc ce samedi 7 janvier au Petit Carré d'Art à Saint-Afrique avec ce ciné-concert Flip the Frog de Hubie Verks par Tana and the Pocket Philharmonic. Donc, on rappelle, l'ouverture des portes est à 19h30 avec un apéro-tapas à participation libre. Un apéro-tapas animé par les musiciens du Pocket Philharmonic. Et puis, à 20h45, le ciné-concert dans la salle du Petit Carré d'Art. Le prix des places, c'est 10 € et 6 €. Tarif réduit pour les adhérents. Il y a une prévente à l'office de tourisme, mais bon, peut-être.
Je précise, il n'y a pas de prévente à l'office de tourisme.
D'accord.
On n'a pas pu la mettre en place. Du coup, il n'y a que sur Internet, donc sur le site.
D'accord.
Il y a un lien. Et j'en profite aussi pour dire que s'il y a des auditeurs qui ont envie de venir demain, il faut qu'ils se dépêchent d'aller prendre leur place parce qu'il nous en reste, je crois, à peine une dizaine.
Et oui, c'est une petite jauge le petit
Canada. On a fait beaucoup de préventes.
On espère que ça va bien remplir, en tout cas.
Ce sera plein.
Parfait, merci beaucoup Olivier Coursier, à bientôt.
À bientôt, au revoir.
Et du coup, je suis obligé d'ajuster mon tir, mon fusil d'épaule. J'allais passer un deuxième morceau de Franck Dadur, mais bon, il serait plus logique, hein, on fait de la radio, de passer un morceau de Tana and the Pocket Philharmonic. Et c'est ce qu'on va faire, c'est le morceau Take Everything, et il est issu de l'avant-dernier EP Fall Time.
Quel talent!
Be suspicious to let you steal it so delicious. You stole my heart and you don't resell. Do you remember? You keep it for yourself. Now I take care not to be suspicious to let you steal it so delicious. You stole my heart and you don't resell. Do you remember? You keep it for yourself now. We met in the afternoon while we were spliffing in a saloon. Is it with everybody? Too much confidence is sherry, baby. But don't you think I've noticed my leaves and my lifetime is. But you didn't rob my will, cause I gave you all my birds and seeds. Now I take care not to be suspicious to let you steal it so delicious. Stole my heart and you don't resell. Do you remember? You keep it for yourself. Now I take care not to be suspicious to let you steal it so delicious. Stole my heart and you don't resell. Do you remember? You keep it for yourself now. The next time you stole me a kiss in my bed and my shower, my soap, my towels, finally my arms to sleep well. Stop in again in the morning. Begin with my awakening. My coffee, but first the flood, then my short and my tight shirt. You stole my music and you stole my friend. Everything by your end. But baby, you should take my key. To please you is so easy. We'll be right back. to be suspicious, to let you steal it so delicious. Stole my heart and you don't resell. Do you remember you keep it for yourself? Now I take care not to be suspicious, to let you steal it so delicious. You stole my heart and you don't resell. Do you remember you keep it for yourself? Now I take care not to be suspicious, to let you steal it so delicious. My heart and you don't resell. Do you remember you keep it for yourself now?
La revue de Presque.
Cette semaine, à l'occasion du jugement de Cédric Héroux, en ce moment à Nice, nous avons choisi dans cette revue de Presque de revenir sur le délit de solidarité. Cet agriculteur, donc Cédric Héroux, agriculteur militant, est accusé d'avoir aidé et hébergé des migrants érythréens dans la vallée de la Roya, donc à la frontière italienne, chez lui, et aussi en ouvrant un squat dans un ancien centre d'hébergement SNCF. Le procureur de la République a requis contre lui 8 mois de prison avec sursis. Nicolas, tu reviendras sur son argumentation tout à l'heure. Et autre affaire, hier, on apprenait la relaxe de Pierre-Alain Manoni, enseignant au CNRS et poursuivi pour avoir covoituré 3 érythréennes venues d'Italie. Donc, toutes ces affaires, y compris d'autres plus anciennes, réouvrent la question du délit de solidarité. Et Libération, entre autres, se penche dessus dans un article en date du 4 janvier intitulé « Migrants, le délit de solidarité existe-t-il encore ?». En effet, depuis l'élection de François Hollande, la poursuite pour les personnes qui viennent en aide aux migrants a été supprimée. En revanche, le fait de les transporter est toujours considéré comme condamnable. Sylvain Mouillard, rédacteur de l'article, interroge le net sur ce qui avait été dit à l'époque, le 25 juillet 2012 précisément, par Manuel Valls, alors ministre de l'Intérieur, qui s'adressait à la Commission des lois du Sénat. Notre loi ne saurait punir ceux qui, en toute bonne foi, veulent tendre une main secourable. Valls propose alors de mettre fin au délit de solidarité qui permet de poursuivre l'aide désintéressée apportée par des citoyens ou des associations à des étrangers en situation irrégulière sur la même base juridique utilisée pour les filières criminelles d'immigration. C'est-à-dire en fait ce qui est reproché aujourd'hui à Cédric Héroux. Alors en fait, rien n'aurait été changé. En fait, l'expression « délit de solidarité » n'a pas d'existence juridique, mais a émergé pendant le quinquennat de Sarkozy alors que les militants et les bénévoles sont de plus en plus nombreux à être inquiétés pour avoir aidé des migrants. En 2009, Éric Besson, qui était ministre de l'Immigration et de l'Identité nationale, est interpellé par des milliers de personnes qui demandent l'abrogation du délit de solidarité. Est mis en cause en fait l'article 622-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Celui-ci, cet article, prévoit une peine de 5 ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende pour toute personne qui aura, par aide directe ou indirecte, facilité ou tenté de faciliter l'entrée, la circulation ou le séjour irrégulier d'un étranger en France. La gauche s'engageait à y mettre fin et la loi est réécrite en décembre 2012 pour élargir les clauses d'immunité permettant ainsi d'aider légalement les réfugiés pour obtenir des conditions de vie dignes et décentes. Donc, il s'agit bien de conditions de vie, donc d'hébergement, et cela ne concerne toujours que l'aide au séjour et non à l'entrée et à la circulation sur les territoires français. Est-ce que la pratique a suivi la loi ? C'est ce que se demande Libération en fin d'article. Depuis 2009, les poursuites ont diminué, mais en 2014, elles sont remontées et elles se font plus subtiles pour des motifs parallèles comme l'outrage à agent, alors que ce n'est souvent pas avéré. Conclusion de l'article, ce que la loi permet est obscurci par l'intimidation. Nicolas, tu voulais revenir toi
oui,
sur...
Je vais revenir sur en fait, les faits qui ont finalement abouti à la relaxe de Pierre-Alain Manoni, donc cet enseignant-chercheur de la faculté de Nice. Donc une relaxe qui a été prononcée aujourd'hui, en fait. Donc ça remonte au 17 octobre dernier, c'était le soir, et donc Pierre-Alain Manoni était venu dîner chez des amis de la vallée de la Roya. Il entend parler d'un local SNCF désaffecté que viennent d'ouvrir ouvrir sans autorisation des habitants de la vallée pour loger des migrants. Il était 1h du matin, c'était sur la route pour rentrer à Nice. Il nous dit qu'il s'est arrêté pour... par curiosité, en fait. Hein. Et puis là-bas, on s'apprête à loger entre 40 et 60 personnes dans un bâtiment sans eau ni électricité. Parmi elles, il y a 3 jeunes érythréennes qui sont blessées aux jambes. Alors quand on lui demande s'il ne pourrait pas s'occuper de les ramener jusqu'à Marseille, où on pourrait les soigner, il a accepté, tout simplement. À 4h du matin, Pierre-Alain Manoni se fera arrêter avec les 3 jeunes femmes au péage de la Turbie, juste après la frontière italienne, qu'il doit traverser pour regagner Nice par la route principale. Embarqué jusqu'à Nice, il ne les reverra plus. Mais pour lui, à partir de là, les ennuis commencent. On lui prend sa montre, on lui passe les menottes. Il est placé en garde à vue pendant 36 heures et inculpé pour aide à l'entrée, à la circulation et au séjour d'étrangers en situation irrégulière. Un chef d'accusation pour lequel les passeurs encourent 5 ans de prison et 30 000 euros d'amende. Mais Pierre-Alain Manoni, c'est pas un passeur, il n'a pas touché d'argent. Certes, il reconnaît qu'il a déjà covoituré des migrants une fois la veille, donc toujours en vallée de la Roya. Ce jour-là, il emmenait sa fille de 12 ans à la fête de la brebis quand il a croisé des jeunes Soudanais sur la route. Il s'est arrêté, ils lui ont expliqué qu'ils avaient marché 12 heures. L'un était en Bermuda. Pierre-Alain Manoni leur a dit donc que s'il était toujours là à son retour, il les prendrait. Sa fille était avec lui et il a voulu, dit-il, lui montrer un exemple d'humanité. Voilà. 4 heures plus tard, il tient sa promesse et embarque les 4 jeunes gens dans sa voiture. Il les héberge dans son petit 40 mètres carrés et le lendemain, il les met dans le train pour Marseille. Voilà. Alors, est-ce que le procureur a tenu compte de cette première? En tous les cas, le 23 novembre dernier, jour du procès de Pierre-Alain Manoni au tribunal correctionnel de Nice, il a requis 6 mois de prison avec sursis. Il a justifié ça en disant que c'était un sévère avertissement, on peut porter secours, c'est le procureur hein, qui le dit, le procureur Jean-Michel Prêtre, il dit qu'on peut porter secours, c'est un devoir, mais pas aider au séjour et à la circulation. Ces actions ne s'inscrivent pas dans un secours, elles consistent à nier qu'une frontière existe et qu'un pays puisse faire voter des lois. C'est un peu étrange, puisqu'on est quand même dans l'espace Schengen, mais enfin bon. Voilà. Le procureur n'a pas été suivi, donc, puisque Pierre-Alain Manoni n'a toujours pas récupéré son véhicule hein, depuis son arrestation. Il a été relaxé donc, ce vendredi par le tribunal correctionnel de Nice. Et puis tu le disais, donc, mercredi 4 janvier, Cédric Héroux, agriculteur dans la vallée de la Roya, comparaissait pour avoir participé donc, justement à l'ouverture de ce centre, de cet ancien centre d'hébergement SNCF. Et le procureur a requis contre lui 8 mois de prison avec sursis. Et la décision a été mise en délibéré au 10 février. Donc il faudra attendre le 10 février pour avoir le résultat. Donc ils avaient donc comparu une première fois, c'était le 23 novembre devant le tribunal correctionnel de Nice. Là donc le procès de Cédric Héroux avait été renvoyé au 4 janvier à la demande de ses avocats et comme prévu évidemment ce jour-là le 23 novembre, il y avait une centaine de manifestants devant le tribunal, des personnes qui étaient venues dire oui à la solidarité et à l'accueil des migrants et des réfugiés, qui s'étaient rassemblées donc devant le palais de justice avant, pendant et après l'audience. Et donc il y a même une réaction, alors c'est assez cocasse, il faut le noter, d'un ancien cadre du PS niçois, David Nakache, qui disait « Aujourd'hui, on a des citoyens contraints d'enfreindre la loi parce que l'État ne remplit pas ses obligations.
Voilà. » C'est un ancien du PS qui le dit.
Voilà, un ancien cadre du PS qui le dit. Voilà, donc jugé ce mercredi à Nice, Cédric Héroux a revendiqué, lui, une action politique alors qu'il encourt une peine de 5 ans de prison et donc... ces fameux 30 000 euros d'amende. Alors il dit qu'il le fait parce qu'il y a des gens qui ont un problème, je le fais parce qu'il faut le faire, il y a des gens qui sont morts sur l'autoroute, il y a des familles qui souffrent, il y a un État qui a mis des frontières en place et qui n'en gère absolument pas les conséquences. Donc le procureur Jean-Michel Prêtre, toujours lui, a requis à son encontre 8 mois de prison avec sursis, mise à l'épreuve et la confiscation de son véhicule, ainsi qu'un usage limité de son permis de conduire aux besoins de sa profession. On rappelle qu'il est producteur d'olives et d'œufs et qu'il doit faire le trajet puisqu'il vend notamment un peu des deux côtés de la frontière en Italie et en France. Donc le procureur a dénoncé l'usage de ce procès comme d'une tribune politique. Nous sommes dans une situation d'un procès qui a été voulu, c'est ce que dit le procureur, qui procède d'une stratégie générale de communication, de portage militant d'une cause et qui fait que la justice est saisie aujourd'hui de faits reconnus. Il estime, donc toujours lui le procureur, que ce n'est pas à la justice de décider de changer la loi, ce n'est pas à la justice de donner une leçon de diplomatie à tel ou tel pays.
Voilà. D'accord, donc Le résultat attendu en février.
10 février, voilà, pour le résultat du procès de Cédric Héroux.
Alors, tout ça peut aussi nous évoquer une autre affaire qui avait eu lieu en avril dernier. Il y a un article du Monde daté du 7 avril qui revient sur l'histoire de Fernand Bosson, qui lui avait été poursuivi pour avoir accueilli une famille kosovare sur la commune d'Ognon, en Haute-Savoie. Alors pendant 2 ans, il a hébergé dans une maison qui lui appartenait, cette fois donc c'est pas un squat, hein, c'est une maison qui lui appartenait, un couple et ses 2 enfants. Il n'a ni aidé à l'entrée ni au transport de cette famille, il a agi à titre gracieux, donc totalement en respect de cette loi. Qui ne devrait donc pas lui valoir de poursuite. C'est Claire Rodier qui le confirme, directrice du groupe d'information et de soutien des immigrés. En fait, c'est l'état d'urgence qui a servi de prétexte à une demande de perquisition par le préfet de Haute-Savoie, sous le motif suivant. L'habitation de M. Bosson est un lieu dans lequel il existe des raisons sérieuses de penser qu'il est fréquenté par une ou plusieurs personnes dont le comportement constitue une menace pour l'ordre et la sécurité publique. La directrice du groupe d'information et de soutien aux immigrés analyse ces poursuites comme le résultat d'une bonne compréhension entre la préfecture, chargée de faire la chasse aux étrangers irréguliers, et le parquet, qui s'occupe des personnes qui les aident et exerce une pression sur eux. Donc on en revient toujours à cette volonté d'intimidation. Résultat du procès, alors que le procureur requérait une amende de 1500 euros, Fernand Bosson a été dispensé de peine, mais il a tout de même été jugé coupable, alors qu'il respectait la loi.
Bah, à suivre de toute façon, hein, on reviendra sans doute sur à l'occasion du délibéré du procès de Cédric Héroux, on reviendra certainement sur ces affaires. Je pense qu'on n'en a pas fini avec cette histoire parce que bon, il y a quand même des choses assez contradictoires dans toutes ces affaires qui concernent l'aide aux migrants.
Nico, est-ce que tu veux poursuivre avec une...
Je poursuis et je termine. On va écouter un dernier morceau du dernier album de Frank Dadur and the Fakir Orchestra. L'album s'appelle Takomitsu. Il est sorti sur le label Radio France, Signature. Et il est entouré sur cet album, Frank Dadur. Donc il joue du saxo, de la clarinette turque et il est à tout ce qui est électronique. Il avait Christophe Elliott Touzalin à la trompette, Daniel Zimmerman, qui n'est pas inconnu non plus de nos services, qui est déjà venu jouer. À Sainte-Afrique au Petit Carré d'Art avec Polisson justement et Miyuan Jazz.
Et qui reviendra cette saison comme sideman dans je ne sais plus quel concert, je crois que c'est Eric avec Eric Seva, voilà, c'est
exactement.
Ça.
Qui donc Daniel Zimmerman lui est au trombone, Dominique Grimaldi qui est à la basse, Frédéric Satch qui est à la guitare et Fabien Ducon à la Ducombs, D-U-S-C-O-M-B-S à la batterie. Donc on va écouter un dernier morceau pour terminer l'émission et ce morceau il est un peu en relation avec votre revue de presse puisque c'est The Road to Almeria. Voilà, c'était The Road to Almeria, issu du dernier album Taco Mitsu de Frank Dadur and the Fakir Orchestra, signé sur le label Radio France et distribué par Harmonia Mundi. Je ne l'avais pas dit. Voilà.
Eh bien, merci Nico pour ce choix planant, qui est fort agréable. Une petite rectification de la revue de presse de tout
oui,
à l'heure.
Simplement pour préciser les sources qui m'ont servi, en tout cas en ce qui me concerne, pour cette revue de presse. Alors, non pas dans l'ordre d'entrée en scène, mais dans l'ordre chronologique, il y avait Le Dauphiné libéré du 23 novembre 2016, Le Parisien qui n'est plus libéré, lui, contrairement au Dauphiné, qui l'a été auparavant, du mercredi 4 janvier.
Selon qu'il n'est plus.
Oui. Enfin, c'est des titres qui remontent ça à la libération après-seconde guerre mondiale. Et puis La Croix, donc du 5 janvier 2017. Et puis je crois, Amélie, que tu voulais ajouter quelque chose à propos de Ciné Hebdo.
Oui, voilà, qui s'appelle maintenant Ciné Mensuel, puisque tous les titres changent de nom régulièrement, comme on vient de le dire. Un article paru dans le numéro de ce mois-ci, le numéro du mois de janvier, « La solidarité est toujours un délit ». Donc, ce n'est pas une question, c'est « La solidarité est toujours un délit ». Un article de Thierry Leclerc, fort bien écrit, dans le numéro du mois de janvier, si vous avez l'occasion de tomber dessus et d'acheter Ciné Mensuel au passage, qui n'est pas en très bonne forme financière. Voilà.
Bon, ben...
Eh bien, oui, ça signe la fin de l'actu sur un plateau. Merci à tous de nous avoir suivis. Vous pouvez nous écouter en rediffusion ce soir à 19h. Et la semaine prochaine, vous retrouvez Conflit de Canards à midi. Et l'actu sur un plateau revient la semaine suivante à midi également. Bon vendredi à tous.
L'actu sur un plateau.
La feuille de chou de Radio Larzac qui se cultive tous les 15 jours.